col fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
L'émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie Nord-Isère
par Jean Guichard et Alain Pongan.
Bonjour Jean.
Bonjour Alain.
Bonjour Laurent. Une histoire de la chanson italienne et en ce moment de la chanson napolitaine.
De la chanson napolitaine.
Qui, comme tout le monde sait, est légère, ne traite d'aucun sujet sérieux ou historique. Ou,
non, légère, et puis...
Qui peut être chantée par n'importe qui, n'importe comment.
Voilà. Et pourtant, en écoutant Bennato, là, Sono solo canzonette, j'étais en train de rêver à Naples. À des promenades dans les rues de Naples, à cette montée vers une église de Naples, et puis on arrive dans un lieu qui est encore complètement délabré, et puis tout d'un coup, on cherche un monument, alors on demande à un carabinier qui est là, qui dit « Il est fermé, je vais vous faire rentrer quand même ». Alors il ouvre la porte, et on se trouve dans un lieu magnifique, orné de fresques extraordinaires. Et à côté, il y en a une autre, des tombeaux du 15e, avec des mosaïques, avec des marbres qui sont splendides. Et puis on ressort, et j'étais en train de rêver à des promenades dans les quartiers espagnols.
Là, tu parles à la fois de la diversité architecturale et puis des diverses influences, mais aussi de la gentillesse des Napolitains, dont on parle très peu.
Absolument, absolument.
Ils sont charmants, en général.
Absolument, hein, et c'est la méconnaissance des Napolitains qui fait que tant de gens se ruent sur la chanson napolitaine, parce qu'ils croient qu'elle est pittoresque, qu'elle est, et que ça va bien passer, qu'on va faire des sous avec, et qui vous hurle ça de façon incroyable et horrible. Et il y en a beaucoup. Et le peuple napolitain, c'est autre chose. Et là, si on n'imagine pas ce qu'est... Si on ne s'est jamais promené dans les rues de Naples, si on n'a jamais parlé avec les gens, traverser les petits marchés où les gens vous vendent des poissons, des légumes, avec ironie, avec gentillesse, comme tu dis, on ne comprend rien à la production de cette plèbe. C'était une plèbe. Et on ne comprend pas non plus qu'elle était capable de marquer aussi bien ses affections pour y compris pour le monarque. Et en particulier, il y a une vieille tradition selon laquelle les rois d'Anjou, la famille d'Anjou qui a dominé Naples, et en particulier René d'Anjou ou Robert d'Anjou, les deux étaient très aimés, ils auraient eu, mais c'est un peu une légende aussi, une gestion favorable au peuple. Alors on va écouter une première chanson qui justement évoque un fait historique, c'est « Non me chiamate più donna Isabella », « Ne m'appelez plus dame Isabelle, appelez-moi Isabelle la malheureuse, j'ai perdu 33 châteaux ». La plaine de Pouille et la Basilicata, j'ai perdu la belle Salerne, le tourment de la malheureuse, le soir je m'embarquais sur une petite barque et le lendemain je me retrouvais attaché. Et alors cette reine Isabelle, c'était la femme de René d'Anjou, on est donc, c'est une chanson qui serait du 15e siècle, et elle regrette la reine Isabelle. Voilà, écoutez.
Chiamatemi Isabella. disgraziata. La sera m'embarcai, m'embarco in cella,
On parlait de l'accueil des Napolitains. Ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a un écrivain sicilien en 1845, Bidera, qui disait, en parlant du Napolitain, c'est un homme libre, désinvolte, spirituel, qui a hérité des superstitions des Étrusques et des Latins, comme la jetatura, enfin le mauvais œil, hein, je crois qu'on peut traduire ça comme
ouais,
ça.
Ouais.
Ce peuple n'a de vie intime que durant les quelques heures de sommeil. Il est laborieux et pacifique. Le vendeur qui crie dans la rue, vous le verrez s'étendre dans cette rue et dormir au soleil dès que sa marchandise sera écoulée. Il aime les étrangers et invite souvent. Pour cela, il dépensera sans compter, insouciant, il bavarde, fait du tapage, mais est incapable de haïr.
Mmh, c'est vrai.
C'est toujours d'actualité.
C'est toujours d'actualité. Mmh. Et puis en même temps, ce peuple qui chantait « Madame Isabelle », c'est un peuple qui était capable, qui était libre, effectivement. Et donc, un peuple libre, c'est un peuple qui est capable de manifester et de se révolter. Quand il est exploité, quand il est... C'est ça, un peuple libre. Sommes-nous libres aujourd'hui ?
Vaste question.
Mais...
Je pense qu'on a une illusion de liberté.
On a une illusion. C'est un autre... Si on se lance là-dessus,
on parlera...
Oui. Ouais. Et il regrettait aussi Madame Isabelle, enfin les Anjou, mm-hmm. parce que aux Anjou, c'est la famille d'Aragon qui succède. Mm-hmm. Et donc, c'est le début de l'occupation espagnole sur Naples. Or, l'occupation de Naples par la royauté aragonaise ou espagnole a été une période extrêmement négative. Où le peuple a été de plus en plus exploité, parce que l'objectif des rois d'Espagne, c'était pas de développer le royaume de Naples, c'était d'en tirer de l'argent. C'est le moment où la conquête de l'Amérique a fini de rapporter de l'or, et où les Espagnols ont cru que l'or c'était la richesse. Et puis, quand on a dépensé l'or, il n'y a plus rien, parce que si les hommes ne produisent rien, il n'y a plus de richesse. Et l'or, quand on l'a dépensé, on ne l'a plus, elle ne se reproduit pas. Enfin, si en banque actuellement, mais c'est un autre problème.
Mais c'est tout à fait parlant, parce que c'est tout à fait sous une autre forme, c'est tout à fait ce qui se passe.
Absolument. Hein. Et donc les Espagnols avaient besoin d'argent. Et la possession du royaume de Naples, pour eux, c'était ça, c'était une source d'argent. Donc il fallait constamment augmenter les impôts, il fallait constamment exploiter ce peuple espagnol dont les vice-rois n'avaient rien à faire, et lui imposer, par ailleurs, une discipline, des mœurs, une langue aussi. C'est les Espagnols qui importent par Naples la troisième personne de politesse, parce que c'était une des formes de courtoisie qui était utilisée dans cette classe sociale nobiliaire espagnole, et puis beaucoup d'autres choses, les vêtements, etc. Et alors, contre ça, le peuple espagnol se révolte.
Le peuple napolitain.
Le peuple napolitain se révolte. Oui, oui, pas le peuple espagnol. Le peuple napolitain, si. Et il ne se laisse pas gagner par cette idéologie. Et éventuellement, il prend les armes. Alors, on va en voir un premier exemple. C'est une chanson qui est ancienne. On ne la date pas exactement. In galera li panettone. I panettieri, à la galère les boulangers, parce que on avait établi, les Espagnols avaient établi des impôts sur ce qui était la nourriture, le plus important dans la nourriture avec les fruits et légumes, c'était
le pain,
le blé. Et donc, c'est un, il y a eu une forme de rébellion. On était vers 1570, mais ça s'est produit souvent à Naples. Il y avait eu une requête d'augmentation du prix du pain qui n'a pas été acceptée par le vice-roi. Pour le coup, c'était les boulangers qui voulaient une augmentation du prix du pain. Et puis le vice-roi avait reculé parce qu'il savait que ça allait provoquer des désordres très, très importants. Et alors les boulangers avaient fait une grève patronale. Ils avaient fermé leur boutique et ils attendaient l'approbation officielle. Et alors est née cette chanson qui exprime la révolte du peuple qui n'a plus de pain. Aux galères, les boulangers, ils s'étaient enrichis, ils s'étaient résolus à devenir chevaliers. Aux galères, les boulangers, ils étaient devenus des grands. Ils ne voyaient plus le peuple et qui revenait comme hier. Aux galères, les boulangers, ils se croyaient déjà barons et en affamant la population. Il ne se faisait pas de soucis, etc. Et cette chanson, donc il y a eu une révolte contre les boulangers. On a envahi les magasins, on a massacré un certain nombre de boulangers et on les a obligés à rouvrir sans augmentation du pain. Compagnia di Canto Popolare qui interprétait cette vieille chanson.
Vieille chanson, mais la musique peut très bien être actuelle.
Bien sûr, c'est une villanelle.
Une villanelle. Et puis, encore une fois, on en avait déjà parlé, mais la langue aussi est une forme de résistance, c'est-à-dire La plupart du temps, elles sont en napolitain, les chansons.
C'est aussi un élément du peuple. Absolument. Du peuple napolitain. C'est qu'il parle sa langue. Moi, je déteste dire son dialecte, parce que c'est péjoratif. C'était une langue, et c'était une langue structurée, qui avait sa grammaire, c'était la langue officielle du royaume de Naples.
Mais c'est aussi un combat contre l'uniformité.
Absolument, fait. Absolument. Et c'est dans cette langue... Et puis, cette communauté de langues, c'est ce que voudra faire la Révolution française, finalement. Mmh. Imposer le français pour unir les peuples différents qui étaient dits français. Là, c'est pareil. La cour parle napolitain. Dans les petits marchés des rues de Naples, dans les campagnes napolitaines, on parle le napolitain, pas l'italien. Et donc, c'est un élément aussi d'unification. Et puis, il y a une poésie napolitaine qui est extraordinaire et que, malheureusement, on connaît mal. On connaît mal toutes les... Et en particulier, la poésie qui s'est exprimée à travers la chanson, et qui va être à la source de nos grandes traditions musicales. Le madrigal qui va sortir de tout ça, de la frottola, du strambotto, le madrigal qui va donner naissance à l'opéra.
L'opéra bouffe.
À l'opéra, au recitar parlando et cantando, et qui va être une forme... musicale et littéraire qui va envahir l'Europe, quoi, et qui sera d'une très grande importance. Alors, on va écouter une autre chanson, c'est le conte de Masaniello, le récit de Masaniello.
Tommaso
Agnello. Alors, ce Tommaso Agnello, c'était un personnage napolitain, il était marchand de poissons. Et on est en 1647, il est jeune, il a 27 ans, il a galéré en vendant du poisson, et puis il passait de palais en palais pour vendre le poisson aux nobles, comme ça, directement, sans passer par le marché, comme ça il payait pas d'impôts, et il gagnait plus d'argent. Et puis en 1647, c'est donc la domination espagnole. Et il y avait eu cette révolte contre les boulangers, il y avait eu plusieurs fois de grandes révoltes sur le problème des gabelles alimentaires. Et c'était pas des révoltes contre le roi d'Espagne, c'était des révoltes contre la vie qu'augmentait. Le roi d'Espagne était plutôt estimé, c'était un personnage lointain, puis c'était le roi, donc on avait l'amour du roi, et on criait volontiers « Vive le roi d'Espagne, que meure le mauvais gouvernement !» Nous, je ne sais pas ce qu'on crierait aujourd'hui, « Vive quoi et que meure le mauvais gouvernement ?» Parce qu'il n'y a plus de roi d'Espagne, mais c'était ça. Et donc, Masaniello était... un personnage, un jeune marchand de poissons, il était marié, et il faisait donc de la contrebande avec les nobles, dont certains le protégeaient, dont un certain Don Carafa, qui était une des grandes familles nobilières de Naples. Et puis pour ça, sa femme avait été emprisonnée, par exemple, pendant 8 jours, pour du trafic de farine, elle faisait aussi de la contrebande, parce que le peuple se débrouillait comme il pouvait pour survivre. Et puis, en prison, il avait été en contact avec des bourgeois. Et les bourgeois à Naples étaient exploités aussi par la grande noblesse. Et ils auraient voulu avoir plus de pouvoir. Alors, il y avait un certain Giulio Genoino, qui était avocat, c'était un vieil avocat, un prêtre qui était avocat et défenseur de cette bourgeoisie. Masaniello va en devenir... l'ami. C'est-à-dire que plutôt, Genoino a compris que sans une révolte populaire, il n'arriverait à rien. Cette masse populaire devait bouger. Et donc,
une alliance de circonstances.
C'est une alliance de circonstances pour Genoino. Et puis, il avait rencontré Marco Vital, et aussi en prison, qui était un autre avocat qui défendait la bourgeoisie. Et voilà que on passe un décret, le vice-roi passe un décret qui augmente la gabelle sur les fruits et légumes. Or, les fruits et légumes, c'était les objets les plus courants et c'était ce dont on vivait avec le blé. Donc, c'était particulièrement...
Ce sont les éléments de base.
Hein, bien sûr. Et en 1646, le vice-roi rétablit une gabelle sur les fruits et légumes. Ça crée une situation absolument explosive. Parce que les gens ne veulent pas payer. C'était une gabelle très importante. Donc, les prix avaient augmenté. Et il y a contre ça une révolte qui s'appuie aussi. C'est un moment où il y a eu une révolte en Sicile. Donc, les Napolitains se disent que ça peut marcher. Alors, en juin 47, Masaniello, qui est un homme actif... prend la tête de cette révolte et il va brûler les bancs de l'octroi.
Pavillon.
Oui, il y avait des bancs où on ramassait l'argent de cette gabelle, entre autres. C'était le 6 juin 47. Il va brûler aussi, il y va avec une bande de femmes, de femmes napolitaines, parce que les femmes étaient très présentes aussi. Elles l'ont toujours été. Lorsque, dans les années 60, on décide d'arrêter les chefs de la Camorra, c'est les femmes. Et alors, elles sont enceintes. Et il y a une extraordinaire augmentation de population parce que les femmes se font mettre enceintes. Parce qu'on ne peut pas arrêter une femme enceinte. Alors, c'est elles qui vont vendre. Et c'était extraordinaire. À cette époque, il y avait dans certaines rues de Naples des magasins qui se touchaient. Enfin, des magasins, des expositions. Alors, c'était des frigos volés, des appareils, des télés volés, etc., qui étaient vendus avec garantie et tout, mais qui étaient vendus par les femmes parce qu'on ne pouvait pas...
On pouvait pas les arrêter.
On ne pouvait pas, elles, les arrêter. Donc, Masaniello s'appuie déjà là-dessus. C'est une vieille tradition aussi à Naples.
Il avait fait ouvrir les prisons.
Oui, il avait fait ouvrir les prisons. Et puis, le 7 juin, ils partent à l'assaut du palais du vice-roi de Naples. Alors évidemment, on négocie avec eux, parce que l'armée n'a rien pu faire, et le vice-roi promet l'abolition des impôts, de tous les impôts les plus lourds. Dans la nuit du 7 au 8 juillet... Il y aura plein de manifestations. On a brûlé les registres des impôts. C'était horrible, quoi. C'était vraiment une révolte populaire très très importante. Et puis Masaniello rencontre le 11 juillet le vice-roi avec le cardinal et des représentants du peuple. Et le vice-roi comprend qu'il faut mettre Masaniello dans sa poche.
Il va le nommer capitaine.
Donc il le nomme capitaine du peuple. Eh oui. Et capitaine général du peuple, on l'habille, on lui donne des habits, et finalement, probablement, on va l'empoisonner, on va l'inviter à des banquets, et on va le bourrer de produits qui lui font faire des folies, quoi. Il se met à faire n'importe quoi. Il fait un projet de pont, par exemple, entre Naples et l'Espagne. C'était un peu... Il a quelques hallucinations. Et alors, finalement, on montre qu'il est fou et il est arrêté. Et très, très vite...
Décapité.
Il est décapité. Et on va d'abord... Le peuple comprend à ce moment-là, parce que immédiatement après la mort de Masaniello, les impôts sont rétablis.
Oui,
donc le peuple qui l'a laissé arrêter, qui a cru qu'effectivement il s'était laissé prendre par la grandeur, par le goût de l'argent. Et le peuple comprend, et alors son corps est adoré à ce moment-là. On va arracher des cheveux de Masaniello pour les garder, parce que c'est précieux.
Mais ça occasionnera de nouveaux massacres.
Et ça occasionnera de nouveaux massacres. Et puis finalement, il sera arrêté dans la basilique du Carmine. Ces ossements seront dispersés en 1799 par le cardinal Ruffo. Et on va plus tard le réintégrer dans son tombeau et on apposera une plaque sur la basilique en 1961. Alors, l'histoire de Masaniello va rester parce que c'est vraiment la grande figure de héros populaire dans l'histoire napolitaine. Alors, il y a cette chanson, « O Cunto, O Masaniello », qui va chanter cette histoire. Alors, ça commence, chaque strophe commence par « al tiempo ».
Au temps de.
Alors, c'est d'abord au temps du désespoir, au temps des malheurs, puis au temps des troubles, puis au temps des tourments, puis au temps du désespoir, au temps du printemps, au temps de la trahison, parce qu'on croit que Masaniello a trahi, au temps des complots, au temps des gabelles, au temps des découragements. Et on raconte cette histoire de Masaniello. Alors là, on a pris l'enregistrement dans un groupe actuel, un jeune groupe qui a repris toutes ces chansons, c'est Néapolis.
Et la fin de... Masaniello est vêtu comme un mort, on le croit mort. Je veux dire, c'est très significatif.
Oui.
C'est parce qu'il est peut-être mort, effectivement, mais il n'est pas mort, en fait, puisque comme tu le disais si bien, son histoire continue à être chantée. La plaque dont tu parlais a été mise en 1961.
Oui.
Donc c'est quelqu'un d'important. En fait,
Et ça reste quelqu'un. Et ça va déborder Naples, quoi. On trouve d'abord chez des chanteurs napolitains, chez Gragnaniello, chez Pino Daniele, on trouve des allusions, des références à Masaniello. Et puis on va en trouver un peu partout dans la littérature parce que Masaniello est vraiment devenu un des grands héros populaires et sa mémoire n'est pas morte, effectivement. Voilà, écoutons O Cunto Masaniello.
Piscadoro, Masaniello, nu piscadoro. Piscadoro, nu la ringrescio, Masaniello, sa magno nu pescio, Masaniello, sa magno nu pescio.
Bene, subito vicere, chi sto pesce spetta a me, tutta a me e niente a te, poi si adassa, buo papà, chi sto pesce do buon pignà.
Allo tempo della malora, Masaniello, nu piscadoro.
Allo tempo. Barra tribo l'ambizzo, Masaniello sa vesta scugnizza, Masaniello sa vesta scugnizza. Non scugnizza, stracciata e fodenda, Masaniello sa magna e sa menta, Masaniello sa magna e sa menta.
Bene, subito vicere, sta sa menta e spetta a me, tutta a me e niente a te, qua sa menta tu d'angrassa e ta mette nata d'assa.
Allo tie, barra tribo l'ambizzo, Masaniello sa vesta scugnizza.
Allo tiembra la li turbienda, Masaniello sa vesta fuienda, Masaniello sa vesta fuienda. Senza rezzo e senza più barca, fanno vuta maron nell'arca, fanno vuta maron nell'arca.
Beno breve mio vicere, sta maronna aspetta a me, tutta a me e niente a te, che stia da sbobata terna, o vai subba dall'inferno.
Allo tiembra la li turbienda, Masaniello sa vesta fuienda.
Allo tiembra risporazione, Masaniello sa vesta liona, Masaniello sa vesta liona. Nu liona con l'olio che rienda, te na fame tutte pazienda, te na fame tutte pazienda.
Vicerema fedocista, son covaccia camorrista, io ma son battanzista, e quanzirie Masaniello fai marenna sarachiella.
Allo tiembra risporazione, Masaniello sa vesta liona.
Allo tiembra primavera, Masaniello sa vesta bandera, Masaniello sa vesta bandera. Da bandera co popolo la vascio, son arredo d'amore grandascio, son arredo d'amore grandascio.
Attenzione, battaglione, sei sparato in un cannone, asciuto pazzano padrona, oggi già lasciato pana, ma non sai chi è di mane.
Allo tiempo la primavera, saliendo sa vesta pannera.
Allo tiempo la tradimiento, ma saniello vesto in argento, ma saniello vesto in argento. Tutta argente, signor cumbito, ma c'ho cosa non stu vestita, ma c'ho cosa non stu vestito.
Dice subito vicere, si me guala io e te, pazziamo con cosette, si risponde a chi st'invita, da già cosa da nato vestita.
Ballo di embra, tradimiento, ma saniello veste in argento.
Ballo di embra, lì tra lazzo, ma saniello vestuto ravazzo, ma saniello vestuto ravazzo. Quando tre mio vestito si straccia, puro povero spunta in faccia, puro povero spunta in faccia.
Sto vestita fa paura, ma saniella si sbaglia annura, a maronna non se ne cura, poi si acaba in terra ce l'assa, a così va l'urda matassa.
Allo tiembra l'indra mazza, ma saniella va su la pazza.
Allo tiembra si capella, ma saniella è pulla Chanel, ma saniella è pulla Chanel. Si è rimasta cagava rinda la terire una rete quinta, la terire una rete quinta.
Posa uendo panelluoglia, saliendo appena ad un ruoglia, ti rovava la caccia cuoglia, non c'ha pizza mai la bella, chi con mano sti guarda a tella.
Allo tiempo la sti capella, ma saniella è pulla Chanel.
Allo tiempo la chissà sconforto, ma saniella è bastuta era morta, ma saniella è bastuta era morta. Rinda nicchia una coppa con l'osso, già lassata una coppola rossa, già lassata una coppola rossa.
Questa coppola era la voce, quando la fama non è dolce, quando dava la resta in croce, quando dava stu tributa, pura tassa in coppa da muta.
Allo tiempo la chissà sconforto, ma saniella è bastuta era morta.
Voilà l'histoire de Masaniello sur Couleur FM. Il fallait que Couleur FM passe l'histoire de Masaniello.
Extrait d'un bel album d'ailleurs de Néapolis.
Oui, oui, très
dédié aux résistants justement.
Et bien alors, ce que ne comprennent pas beaucoup de ceux qui se saisissent de la chanson napolitaine pour essayer de faire un peu de fric avec, c'est que quand un groupe napolitain chante cette chanson, il la chante avec son cœur.
On le sent, en plus. Enfin, c'est visuellement, d'ailleurs, ce groupe est exceptionnel.
Absolument. Ils sont passés à Grenoble il n'y a pas très longtemps. Et dans l'Isère, enfin, ils sont passés dans la région. Mmh. Et c'est vrai que c'est frappant. Mmh. C'est vraiment pour eux l'expression même et de leur révolte contre ce vice-roi espagnol étranger toujours, qui disait chaque fois que quelqu'un avait un poisson ou autre chose, qui disait « c'est à moi, c'est à moi », et qu'il prenait. Et puis le temps des tourments, et puis le temps du printemps aussi. Et c'est vrai que quand on l'exprime en napolitain, allo tempo du primavera, c'est pas la même chose que même en italien, et encore moins en traduction française. Masaniello se veste bannera. Il y a un redoublement, par exemple, des consonnes dans la langue napolitaine qui est très caractéristique et qui
très expressive.
Très expressive. Et que on peut pas considérer comme une erreur par rapport à l'italien. C'est une langue autre, et c'est intéressant de le remarquer. Et la plupart des gens le comprennent pas, parce que on n'est plus, nous, habitués à avoir cette même quand on chante la Marseillaise, c'est pas la même chose, quoi. Ça a un sens beaucoup plus profond, beaucoup moins institutionnel et beaucoup plus lié à la vie profonde, immédiate des Napolitains. Alors, on va écouter une autre chanson qui est liée à la vie profonde des Napolitains, mais d'une autre façon, et qui est aussi des éléments historiques, puisqu'il va s'agir des Turcs. Or, les Turcs pour les...
Les Turcs et les Sarrasins.
Les Turcs et les Sarrasins, pour les Napolitains, c'était une réalité très, très importante. Les Turcs voulaient s'imposer jusque dans l'Adriatique et la mer Tyrrhénienne. Et ça a été une lutte permanente pour repousser l'avancée des Turcs. Ils arrivaient, ils pillaient, ils débarquaient à quelques bateaux, et puis ils pillaient le village. C'est pour ça que les villages dans le sud sont souvent, non pas au bord de la mer, on se dit, mais ils sont fous, ils ne s'installaient pas au bord de la mer. Non, parce que c'était trop dangereux. Ils allaient s'installer sur la montagne, qui était à une dizaine de kilomètres. Parce que, mais du coup, ça créait une vie très, très rude, parce qu'il fallait descendre de la montagne pour aller travailler les champs, dans la plaine, pour aller... Et ça non plus, on le voit pas. Donc, il y a cette réalité historique des invasions turques. Et il faut attendre la bataille de Lépante, où les Occidentaux, les Vénitiens surtout... détruisent la flotte turque dans cette petite ville de l'ouest de la Grèce. Pratiquement toute la flotte turque est détruite et en même temps, il y a la victoire sur l'armée turque à Vienne. C'est là qu'on invente le croissant d'ailleurs, parce que les armées chrétiennes se fabriquent des petits pains en forme de croissant. Le croissant était l'emblème des Turcs, enfin sur l'emblème des Turcs. Et donc, pour manifester la victoire, on mange le croissant. On mange l'emblème de l'adversaire. Alors, il y a une chanson il y a beaucoup de chansons qui vont évoquer les Turcs. On en écoutera plusieurs. Il y en a une première, c'est Mikel Emma. Alors, Mikel Emma, c'est une chanson, une des plus célèbres de toute la production napolitaine. On va essayer de l'interpréter. On ne sait même pas de qui elle est. On l'a attribué
à Salvatore
Rosa, qui était un poète, peintre, musicien du XVIIe siècle. Mais on n'a aucune certitude.
Ni sur le titre, d'ailleurs.
Ni même sur le titre, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'autre jour, on a écouté une tarentelle. Et dans cette chanson, qui était une chanson populaire, vraiment de la camp populaire, pas popolaresca, mais populaire, et de la campagne napolitaine, il était question de cette Mikel Emma. Alors, on va en discuter, on va écrire, et en fait, c'est une chanson beaucoup plus profonde, qui a été analysée, entre autres, récemment par De Simone, le grand spécialiste de la chanson napolitaine. Que disent, je vais vous lire le texte de la chanson. D'abord, elle est née au milieu de la mer, Mikel Emma, Mikel Emma. Voilà une scarole. Oh, et une scarole, la scarole, la salade, donc la forme de laitue. Les Turcs s'en vont, Mikel Emma, se reposer. Qui par le sommet, Mikel Emma, qui par les racines? Bienheureux celui qui est vainqueur, Mikel Emma, de cette fille qui est fille, Mikel Emma, de notaire, et sur la poitrine elle porte, Mikel Emma, una stella Diana, une étoile de Diane, une étoile du matin, pour faire mourir ses amants, Mikel Emma, deux par deux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De Simone remarque que, en fait, c'est une possible clé de lecture qui n'a jamais été beaucoup exploitée jusqu'à présent, était à rechercher dans le monde symbolique de la mythologie populaire napolitaine, le monde magique, parce que la scarola, cette scarole qui est née au milieu de la mer, una scarola dans le dialecte, dans la langue napolitaine, c'était une belle fille. Mm-hmm. Donc, il y a un symbole sexuel. La scarola, c'était exactement le sexe féminin mm-hmm. Des filles qui étaient désirées. Et elle est née au milieu de la mer. Et alors, il y a cette étoile de Diane. On a, dans beaucoup de chansons napolitaines, cette image d'une étoile qui tombe dans la mer mmh. et de la mer ressort mmh. una scarola, une mmh. belle fille. Alors, on aurait donc d'une part, dans cette scarola, une jeune fille, une jeune femme, et la scarola était aussi un symbole de fécondité.
Fécondité, ouais.
De fécondité. Mmh. Mmh. Et puis, on a en face les Turcs. Alors les Turcs, qui heureux celui par qui va vaincre Michelemma, et le Turc, alors dans la mythologie populaire, le Turc au contraire, c'est l'élément mâle dans mmh. la tradition. Le Turc indique la couleur noire, il est considéré comme sombre, c'est le mâle opposé à la femelle. C'est le phallus souterrain, c'est l'obscurité opposée à la lumière, c'est la nuit opposée au jour. Donc les Turcs, en réalité, c'est l'homme. Et on a donc une chanson qui va chanter en réalité à travers ce symbolisme magique, où il y a le signe de l'eau, elle a sur la poitrine une étoile de Diane, va chanter la difficulté du rapport entre l'homme et la femme.
Tout c'est clair, après, c'est vrai que ça se tient.
Voilà, c'est assez... Il y a une double signification, donc la lutte contre les Turcs, les Turcs qui viennent enlever les filles sur le rivage napolitain. Et puis, on a une double signification, d'ailleurs, qui est évoquée dans la chanson. Celui qui, par le sommet... Par la tige.
Ou par la racine.
Ou par la racine. Mmh, mmh. On a là les deux, le haut, le bas, la double composante des personnages. Et c'est vraiment. C'est probable que, comme toujours dans la chanson napolitaine, on ait cette double référence historique de lutte contre les Turcs, et puis psychologique et psychanalytique. Que le sens de l'eau vient renforcer. Et puis, on a une chanson, vous allez l'écouter, c'est une tamburiata qu'on jouait souvent en même temps après la chanson religieuse La Madonna dei Bagni, qu'on avait écouté il y a deux émissions. On est en plein domaine à la fois religieux et magique, et c'est comme ça probablement qu'il faut écouter cette chanson. C'est pas étonnant que dans ces conditions, elle soit si vivante, constamment reprise par tous les groupes, par tous les chanteurs napolitains.
Nata miezo mare, Michelemma. Oi nascarola, oi nascarola, oi nascarola, oi nascarola. Li turca sence vanna Michelemma, Michelemma. Li turca sence vanna Michelemma, Michelemma. A riposare, a riposare, a riposare. Chi per la cimma e chi Michelemma, Michelemma. Chi per la cimma e chi Michelemma, Michelemma. Per lo streppone, per lo streppone, per lo streppone, per lo streppone. Viata chi la vence Michelemma, Michelemma. Viata chi la vence Michelemma, Michelemma. Custa figliola, custa figliola, custa figliola, custa figliola. sta figliola che figlia Michele ma, sta figliola che figlia Michele ma, oi de notare, oi de notare, oi de notare. Empiet porta namica le ma, Michele ma, empiet porta namica le ma, Michele ma. Stella Diana, stella Diana, stella Diana, stella Diana. Può fa morir l'amante Michele ma, Michele ma, può fa morir l'amante Michele ma, Michele ma. A tui, a tui, a tui, a tui, a tui.
Voilà, Michele ma, donc chanté par.
De nombreux groupes. En,
par de nombreux groupes, il a là par le même groupe Néapolis. Mais alors c'est bien caractéristique parce que on l'a attribué à Salvatore Rosa, qui est un personnage littéraire très intéressant d'ailleurs, très très napolitain. Mais chaque fois qu'on a pu attribuer une chanson à un auteur connu,
c'était lui.
Oui, et puis. Oui. On l'a fait, on en a attribué plus tard à Donizetti.
Oui, Donizetti, on a dit aussi qu'il avait
On a essayé, comme on a pu, on a essayé
d'attribuer la chanson à quelqu'un.
Voilà, et à quelqu'un qui était connu, puis qui faisait partie du beau monde, accepté par la bourgeoisie et la noblesse napolitaine. Et ça, je crois que c'est très caractéristique aussi, c'est un détail, mais c'est très caractéristique. On a fait tout ce qu'on a pu pour réintégrer cette tradition qui chantait les problèmes du peuple napolitain. Et là, les problèmes des rapports entre l'homme et la femme. Il y avait l'angoisse de la nuit de noces aussi, la perte de la virginité, etc., qui était présente dans toutes ces chansons.
Alors, on va écouter une autre chanson du groupe Néapolis. Alors, dans, à notre époque, on a quelques chansons qui ont été interdites. Hein, ça existe, malheureusement, j'allais dire. Enfin, souvent malheureusement. Mais même là où on se situe, la création de la chanson est située autour de 1873. Et cette chanson, il semblerait qu'elle ait été interdite à l'époque. Alors, interdite d'être chantée dans la rue ou autre, mais ce qui n'empêchait pas les Napolitains de la chanter ou de la susurrer tout au moins dans le quotidien. Donc cette chanson, Palumelle, a d'ailleurs donné le titre à l'album de Néapolis dont on parle depuis un moment. Et Palumelle, ça veut dire petit papillon. Alors pourquoi Palumelle? Parce que dans la tradition musicale napolitaine, les sentiments, l'amour, la paix, l'espoir, la dépression, la joie de vivre sont confiés à des animaux volants, comme l'oiseau, le papillon, l'abeille ou autres animaux qui volent. Donc. Et quand on, pourquoi elle aurait été interdite? Parce qu'elle est, là aussi, il y a un double signification, mais de désir de liberté, en fait. Et tout ça a été considéré comme subversif. Et dans la présentation, d'ailleurs, de l'album de Néapolis, Ciro Costabile, il est dit que dans la musique napolitaine, il y a un nombre impressionnant de chants dont les interprètes principaux sont ces porteurs de liberté, donc toujours référence à ces animaux volants. Et au XIXe siècle surtout, beaucoup de compositeurs ont écrit, anonymes ou non, ont écrit des chants révolutionnaires et d'amour en demandant à une palumelle, donc à ce petit papillon, de faire suivre le message. La chanson donc commence par « Mon papillon, saute et vole auprès de mon amour, ne t'arrête pas en chemin, vole vite chez elle. Avec les ailes, fais-lui des fêtes, fais-lui des caresses de la tête aux pieds et dis-lui que jour et nuit je soupire pour elle. Mon papillon, vole, vole vers la rose de ce cœur, il n'y aura pas plus belle fleur pour te plaire. » Etc, etc.
Célèbre de Corail, mon papillon saute et vole. Mais ce que tu dis est intéressant, on le retrouve un peu dans la chanson populaire française, le temps des cerises.
Absolument.
C'est tout à fait ça. Et c'est pas par hasard que c'est une des chansons qui est restée la plus populaire en France. Tout le monde connaît le Temps des Cerises. C'était à la fois une chanson d'amour et puis une chanson révolutionnaire.
De résistance,
de
liberté.
De résistance, de liberté, etc.
Donc, Palumella.
Palumella, zombe vola, addostana nella mia. Non fermarte, vola via. Vole zomba che la la. Culiscella, la saluta. Fallo festa.
Terminé par l'évocation d'un autre thème de révolte, c'est le thème du brigand. Alors, bien sûr, les gens du Sud, à beaucoup d'époques, ont été traités comme des brigands, ont été considérés comme des brigands. Ben oui, ils ne respectaient pas la loi, ils pillaient. On a vu l'exemple de Masaniello, c'est un brigand, Masaniello. Mais pourquoi il y a eu des phénomènes de brigandage collectif dans le Sud ? Tout simplement parce que le Sud, dans toute son histoire, a été horriblement exploité.
Notamment après l'unité italienne.
Enfin, avant, par des pouvoirs étrangers. Aragonais, espagnol, autrichien.
Toutes les influences. Pour ça, quand on parle du royaume de Naples, en fait, c'est plusieurs royaumes de Naples successifs.
Mais bien sûr. Et après l'unité, c'est vrai que le Sud est exploité par un Piémont qui ne comprend rien et qui veut quoi ? Qui veut s'approprier les richesses du Sud, les richesses de minerais, les richesses...
Globalisation avant l'heure.
C'est une mondialisation, une globalisation avant l'heure. Alors, Bennato va reprendre...
Eugenio Bennato,
oui, pas Edoardo. Dans une série de chansons qu'il publiera sous le titre de « Brigante se more », « On meurt brigand ». Et d'abord celle-là, « Quand sonne la cloche », qui évoque une des invasions, l'invasion turque. Aux armes, la cloche sonne, les Turcs ont débarqué sur la plage, donc y a un appel à se révolter contre ces envahisseurs turcs. Aux armes, les Turcs ont débarqué, que celui qui a du blé l'emporte parce qu'il faut se garder, sinon on n'aura plus de farine et on n'aura plus rien à manger. Et puis la chanson se termine par une énumération des occupations étrangères sur Naples. Et puis vint le roi normand, qui est Cecifadano, qui nous a causé des dommages. Et puis vint l'Angevin, qui nous a ruinés. Et puis vint l'Aragonais, qui nous a surpris. Et puis le roi espagnol, et puis les Bourbons, et puis le Piémont. Cacevo bene, caposa essere cecato, chi non ci crede, que puisse être aveuglé celui qui n'y croit pas, que puisse mourir assassiné celui qui n'y croit pas. Quando suona la campana.
Allarma, allarma, la campana suona, di turca sa sbarcata la marina, che ta na scarpa vecchia se la sola, gavim a fare nu lunga cammina. Quanto è lunga sto cammino, disperata, questa storia si ripete cento volte. Noi fuimmo tutta quanta assai lontana quando suona la campana. Allarma, allarma, la campana suona, di turca si è sbarcata la marina, chi te ne grana lo porta la mola, come giovane anche la farina. Ma non basta una farina, questa forca, questa gente che n'ha mai buttata mai. Oh padrona, vana sempre da lontana quando suona la campana.
La chanson napolitaine et l'évocation de ce peuple qui a toujours été un peuple occupé.
Et qui aura une suite, on continuera la prochaine fois encore sur la chanson napolitaine.
Voilà. Et au revoir.
Au revoir à
tous.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie Nord-Isère.
Par Jean Guichard et Alain Pongan.